Nous allons poursuivre ce matin notre exposition de la parole de Dieu dans la ligne de ce que nous avons commencé à traiter avec la première lettre de Pierre. Nous exposons simplement la parole de Dieu, nous ne voulons pas prêcher nos idées, mais nous voulons exposer la pensée du Seigneur telle qu'elle se déroule au fil du texte. Parce que nous croyons que ce texte, qui est parole de Dieu, est capable aujourd'hui encore de transformer des vies. Vous savez, se convertir, naître de nouveau, se faire baptiser, ce n'est pas l'aboutissement de la vie chrétienne, mais ce n'est que le début. C'est à partir de là que nous nous mettons en marche avec Dieu pour vivre une vie nouvelle. Et la question qui peut se poser, c'est comment poursuivre la route une fois que nous nous sommes donnés à Christ. Comment poursuivre cette route quand nous sommes dans un monde qui, au mieux, est indifférent face à notre nouvelle manière de vivre, au pire, est hostile, nous raille, nous moque, nous dénigre. Quand l'apôtre Pierre écrit à ces chrétiens de l'Asie mineure, la première chose qu'ils cherchent à faire, alors qu'ils sont en difficulté parfois dans leur manière de vivre, leur foi dans le monde qui les entoure, première chose qu'ils cherchent à faire, c'est de les encourager. Obtenu en Jésus-Christ. Et puis, ils s'interrogent. Ils disent, mais vous avez reçu un salut tellement grand, comment allez-vous maintenant le mettre en œuvre dans votre vie? Et voilà, en gros, sa réponse. Il dit, mais regardez comment Dieu est. Voyez, Dieu est saint. Et voyez maintenant vous ce que vous êtes devenus. Dieu vous a délivré par Jésus-Christ. Il vous a donné un nouveau statut. Vous êtes désormais des fils et des filles de Dieu. Dieu vous a fait entrer dans une relation père-enfant avec lui. Et dans une alliance où vous êtes partenaire de l'alliance. Or, il y a un dicton qui dit « tel père, tel fils ». Eh bien, nous dit Pierre, vous, en tant que fils et en tant que fille, vous devez ressembler à votre père. Ne vivez plus à la manière de vos ancêtres. Ils avaient des coutumes pécheresses. Ils vivaient une vie qui était futile. Mais vous avez obtenu un nouveau statut, celui d'enfant de Dieu. Et vous devez vivre en conformité avec ce nouveau statut qui est le vôtre, avec cette nouvelle identité qui est la vôtre. Le chemin ne va pas être facile. Mais ayez foi en Dieu. Espérez en lui, parce qu'il est le Dieu de votre salut. Voilà en quelques mots la réponse de Pierre à cette interrogation. Mais comment mettre en œuvre le salut que Dieu m'a accordé? Je vous invite maintenant à entendre la lecture du texte que nous allons méditer plus en détail, qui est donc situé dans la première lettre de Pierre au chapitre 1 à partir du verset 13. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saints, car moi, je suis saint. Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or, que vous avez été racheté de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Aide-nous à la comprendre maintenant plus en profondeur et à l'appliquer dans notre vie. Amen. L'apôtre Pierre nous dit que la nouvelle vie que Dieu nous a donnée n'a coûté rien moins que le sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire sa vie. Nous avons reçu une vie qui est précieuse, mais comment vivre cette vie que Dieu nous a donnée? Comment nous conduire en tant que peuple de Dieu dans ce monde? Et je vais développer avec vous trois points qui me semblent ressortir du texte. La réponse que nous donne Pierre se décline en trois impératifs. La première, c'est « marcher dans l'espérance », verset 13. La deuxième, c'est « soyez saints dans votre conduite », verset 14 à 16. Puis la troisième, c'est « vivez de manière responsable, comme des enfants du Père », verset 17 à 21. Donc la première réponse que nous donne Pierre sur comment vivre, c'est de dire marcher dans l'espérance. Ne pas se laisser décourager par les obstacles du monde. Parce que Dieu nous a donné une nouvelle identité pour que nous vivions vraiment une vie nouvelle. Mais pour vivre cette vie nouvelle, pour avoir la force de persévérer dans la vie chrétienne, il nous faut mettre notre volonté en œuvre. Il nous faut nous mobiliser intérieurement. Il faut faire appel à toutes nos facultés mentales. Pierre dit, tenez votre intelligence en éveil. Tenez votre intelligence en éveil. Donc il y a un côté volontaire. Il faut nous mobiliser. On ne peut pas être des chrétiens endormis ou flasques si on veut vraiment pouvoir avancer, ne pas dévier de la route. Dieu a besoin d'un peuple réveillé. On s'attend souvent à ce que Dieu vienne donner le réveil à son peuple. Ici, ce qui nous est demandé, c'est nous de nous tenir réveillés, de mobiliser pour cela toutes nos facultés, toutes nos ressources intérieures, tant intellectuelles qu'émotionnelles. Il faut que nous soyons là, debout, prêts. Si on traduit de manière très littérale cette formule qui est assez typique du judaïsme, il nous faudrait traduire ainsi, saignez les reins de votre intelligence. Ça, c'est la traduction littérale, saignez les reins de votre intelligence. Qu'est-ce que cela veut dire? À l'époque, les hommes portaient des tuniques, des larges tuniques, des sortes de grandes robes, et quand ils étaient chez eux à la maison, ils laissaient leur tunique flotter au vent. Mais quand ils devaient sortir, cela pouvait les gêner, et donc ils retroussaient cette tunique, ils mettaient une ceinture de manière à ne pas se prendre les pieds dans les pans de leur tunique. Eh bien, cette idée de ceindre leurs reins afin de tenir leur tunique, c'est celle qui est évoquée ici. Il est l'idée d'une mobilisation pour être prêt à sortir à marcher. C'est le même verbe « ceindre » qui est utilisé par Dieu dans le livre de l'Exode, quand il est question pour le peuple hébreu de se tenir prêt, juste avant qu'il puisse quitter l'Égypte. Vous vous souvenez de cet épisode? Le peuple hébreu était très longtemps esclave en Égypte. Et à un moment donné, après que Dieu ait frappé le pharaon et le peuple égyptien de 9 plaies déjà, il annonce une 10e plaie qui va être le signe de la libération. Et il demande au peuple hébreu de se tenir prêt pour le moment où il pourra quitter le pays de l'esclavage. Il leur demande de chausser à chacun de chausser ses sandales, de nouer la ceinture aux reins, donc de se ceindre les reins, et d'être prêt à partir quand les premiers-nés des Égyptiens auront été tués. Dieu voulait démontrer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que c'est lui, qu'il est au-dessus de tous les autres dieux. Vous vous souvenez aussi dans cette histoire que pour être protégé du jugement de Dieu qui allait tuer tous les premiers-nés, il fallait que les Israélites tuent un agneau et qu'ils badigeonnent le linteau de leur porte pour être protégés par le sang de cet agneau. Dieu était capable de reconnaître des enfants israélites et des enfants égyptiens. Pourquoi fallait-il badigeonner les linteaux des portes ? Bien, parfois, Dieu demande un signe d'obéissance. Il fallait obéir à ce signe, répondre à cette demande du Seigneur, un signe qui témoigne de la vie nécessaire, badigeonner le linteau des portes. Et bien, dans notre texte, Dieu demande aussi un signe d'obéissance. Il demande de se mobiliser, de mettre en œuvre toutes nos ressources afin d'être prêt pour la marche. Comme le peuple hébreu qui était esclave en Égypte et qui a été libéré, qui a pu sortir pour entrer dans la terre promise, nous aussi nous devons être prêts à quitter le monde ancien et à marcher sur la voie d'une vie nouvelle. Quand les Hébreux ont quitté l'Égypte, ça n'a pas été simple pour eux. Ils ne savaient encore pas exactement ce qu'ils allaient vivre, ils étaient prêts. Le jour de la Pâque, ils étaient prêts à partir. Quand ils ont pris le chemin du désert, ils ont rencontré des difficultés. La vie n'était plus comme avant. Dans le désert, les choses ont paru compliquées. Ils en ont eu marre de devoir manger de la manne le matin, le soir. Et ils ont commencé à regretter la vie d'autrefois. Sur la route de la vie chrétienne, il y a toutes sortes de dangers qui peuvent nous menacer, nous décourager. Peut-être même nous amener à vouloir faire demi-tour. Et c'est pour cela qu'il faut nous tenir en éveil, qu'il faut nous tenir entièrement mobilisés. On ne peut pas être des chrétiens endormis. Pierre donne une deuxième recommandation. Après avoir dit « Tenez votre esprit en éveil », il dit « Soyez sobre ». Cette sobriété, c'est celle d'abord de nos pensées. Il faut éviter les passions, le manque de contrôle de soi, faire perdre vue l'objectif. Vous le savez bien, ce qui détermine nos actes, ce sont d'abord nos pensées. Et donc on doit apprendre à maîtriser nos pensées, à refuser de nous laisser entraîner dans des passions toxiques. Il faut éviter tout ce qui peut nous intoxiquer mentalement, spirituellement, tout ce qui peut venir obscurcir l'œuvre de Christ, tout ce qui peut nous éloigner de la grâce divine. Vous en avez sans doute fait déjà l'expérience. Si vous savez maîtriser vos pensées, vous êtes aussi beaucoup plus à même ensuite d'entrer dans la prière. Pierre le dit d'ailleurs lui-même au chapitre 4 au verset 7. Il dit que nous sommes plus à même de vaquer à la prière quand nous savons maîtriser nos pensées. Et puis quand nous savons maîtriser nos pensées, nous sommes aussi davantage conscients des ruses du diable qui cherche à nous dévorer comme un lion rugissant. Quand les Israélites ont quitté le désert, qu'ils ont pris ce chemin du désert, et qu'ils ont voulu regarder en arrière, qu'ils ont regretté le temps où ils avaient une forme d'abondance, en tout cas où ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient en Égypte. Ils n'ont plus été sobres dans leurs pensées. Ils se sont égarés dans leurs pensées. Ils ont voulu retourner dans leur ancienne manière de vivre. Ils ont rêvé de la vie d'autrefois, et ça veut dire qu'ils n'avaient plus l'espérance, qu'ils ne savaient plus où ils allaient. Or, c'est là la clé de la marche chrétienne. Avoir l'espérance. Espérer. Espérer, dans le langage courant, c'est souvent espérer que quelque chose puisse se produire. On ne sait pas, c'est quelque chose d'hypothétique. C'est se nourrir d'une attente, mais qui n'est pas réelle. C'est avoir une sorte de vague espoir. Mais l'espérance chrétienne, ce n'est pas cela. L'espérance chrétienne s'appuie sur quelque chose de solide, sur un fondement qui est sûr. Ce fondement, c'est d'abord la parole des prophètes qui annonce qu'un monde nouveau va venir, un monde transformé, renouvelé. Et ce fondement, nous avons l'assurance qu'il est solide parce qu'il se base sur la réalisation d'un acte déjà dans le passé. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et s'il a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il va aussi nous amener dans la vie qu'il nous promet dans l'éternité. Ça, c'est l'assurance que nous avons. Quand nous parlons d'espérance chrétienne, nous savons que Jésus-Christ va revenir un jour, qu'il va s'occuper de son peuple et qu'il va nous permettre d'entrer dans le monde qu'il nous promet, un monde complètement nouveau, où toutes choses seront renouvelées. C'est cette espérance qui doit nous tenir aujourd'hui. C'est parce que nous savons le but, nous connaissons ce qui nous attend, qu'aujourd'hui nous sommes à même d'endurer les difficultés de la vie présente. Ce n'est pas toujours évident d'avancer ici-bas, dans un monde qui est complètement indifférent, ou même qui marque de l'hostilité par rapport à notre style de vie. Or, notre style de vie doit être différent de celui du monde. Nous ne pouvons pas vivre la vie d'autrefois. La vie avec Christ nécessite de vivre autrement. Mais comment allons-nous tenir? En ayant l'espérance. Le deuxième point, le deuxième encouragement que nous trouvons dans le texte que nous avons lu, se trouve dans les versets 14 à 16. Après avoir dit « marcher dans l'espérance », Pierre nous dit « soyez saints dans votre conduite ». Comment être saint? Qu'est-ce que cela signifie? Dieu seul est parfaitement saint. Lui seul est parfaitement pur, pleinement juste. Lui seul est parfaitement fidèle, compatissant. Lui seul refuse absolument le mal et déteste le péché. Lui seul est saint. Mais Dieu aimerait nous communiquer son caractère. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui s'approchait du Dieu saint devenait aussi d'une façon quasi physique, quasi automatique, devenait saint et appartenait ensuite à Dieu. Et Dieu aimerait de la même manière que nous nous approchions de lui pour que nous recevions cette sainteté, que nous puissions ressembler à Dieu dans nos comportements. Et c'est pour ça que Pierre écrit « Soyez saints ». C'est un appel à ressembler à Dieu dans son caractère. Cela touche tous les aspects du caractère, mais en particulier nos relations aux autres, tant que nos paroles et que nos gestes puissent refléter sa sainteté, que notre manière de vivre reflète la pureté de Dieu. Il aimerait que, quand nous agissions de manière juste. Il aimerait que quand nous parlions d'une façon bienveillante. La sainteté doit toucher notre rapport aux autres. Ça veut dire que si je veux vivre pour Dieu, je dois vivre différemment. Différemment de ce que je vivais peut-être avant de connaître Dieu et différemment des standards de ce monde. Vivre pour Dieu implique que nous soyons à part. Ça nous distingue des autres. Et Dieu n'aimerait pas juste que j'aie une pratique religieuse différente, mais il aimerait que je vive différemment, parce que je suis son enfant. Le verset 14 dit, « En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois. » Nous sommes des enfants. Un enfant doit obéir à son père. Et le fait d'être devenu des enfants de Dieu, d'avoir changé de statut, cela crée une obligation pour nous. Nous sommes là pour obéir à notre Père céleste, pour proclamer ses louanges. On ne peut plus vivre de la manière qui était la nôtre avant de connaître Dieu. Ça, c'est un modèle qui est dépassé. De la même manière que le peuple hébreu ne pouvait plus vivre comme il vivait en Égypte, qu'il devait apprendre une autre manière de vivre, nous aussi, quittant le pays de l'esclavage, du péché, nous devons apprendre à vivre différemment. Nous ne pouvons plus vivre comme autrefois. Nous devons nous conformer au caractère de Dieu. Ça veut dire qu'on doit renoncer aux convoitises, à nos passions, à notre libido, qu'on doit apprendre à diriger notre conduite. Tout cela n'est pas possible par nos propres forces. On n'y arrivera jamais si nous sommes simplement livrés à nous-mêmes et que nous devons à la fois devenir saints et à la fois vivre dans l'espérance. Ce n'est possible qu'en collaboration avec l'œuvre de Dieu. Il faut que notre travail dans la vie chrétienne soit en harmonie avec le travail de Dieu dans notre vie. Dieu, en fait, nous a choisis. Il a fait de nous ses enfants. Il nous a donné une vie nouvelle. Il veut nous conduire dans notre vie. Ce qu'il demande de notre part, c'est simplement d'articuler notre vie sur ce qu'il fait en nous, de vivre en conformité, finalement, avec la nouvelle vie qu'il nous a donnée. Mais ça ne peut se faire qu'avec l'aide du Seigneur, qu'avec son esprit. Le troisième point, versets 17 à 21, c'est « Soyez des fils et des filles du Père, soyez responsables. » Pierre rend les croyants attentifs à un autre danger. C'est celui de se croire protégé simplement parce qu'on est des enfants du Seigneur. Certains croyants pourraient penser que, puisqu'ils sont sauvés, puisque Dieu est un Dieu d'amour et de grâce, ils peuvent se permettre peut-être quelques écarts. Dieu saura de toute façon toujours combler ces écarts par son amour. Et cela, c'est une attitude irresponsable. Ce n'est pas parce que Dieu est notre Père que nous pouvons nous permettre de faire n'importe quoi dans la vie. Mais il est aussi notre juge. Il est le juge de tous, le juge des croyants et des incroyants. C'est lui qui, un jour, va amener tout en lumière. Et notre vie, comme celle des incroyants, sera mise en lumière. Dieu est un juge impartial. Ça veut dire qu'il n'y a pas de favoritisme en lui. Il n'y a pas de gens qui auraient des passe-droits ou qui seraient des privilégiés. Dieu va juger l'existence de chacun selon ce qu'il aura fait. Et pas seulement juger selon les apparences ou selon les belles paroles que nous aurions pu prononcer. Et donc, nous dit Pierre, il est normal de craindre Dieu. Pierre nous dit « Conduisez-vous avec crainte. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si nous devons faire face à notre juge, qui est aussi notre Père, nous devons être responsables, vivre une vie responsable. Ne pas penser que Dieu, dans un instant de faiblesse, ferait preuve de complaisance avec nous, et parce qu'il est notre Père, excuserait finalement une vie non conséquente. Ça peut paraître étrange aujourd'hui d'associer le Père au juge, comme le fait Pierre. Pour nous aider, il faut nous souvenir que dans l'Antiquité, en fait, le Père avait une très forte autorité. Et les enfants devaient une obéissance à leur Père de manière presque inconditionnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on réfléchit à l'image du Père, avant d'y voir une autorité et quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, on y voit peut-être plutôt un Père qui se plaît à donner, un Père qui se plaît peut-être à s'amuser avec son fils ou sa fille, un Père qui aime, un Père qui pardonne, un Père qui fait grâce. Et pourtant, la parole de Dieu nous montre aussi le visage d'un Père qui est juge, qui va un jour se plaire à mettre toute chose en lumière. Tout va être exposé au jugement de Dieu. Et il y a plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui nous disent que la manière dont nous aurons construit notre vie va être révélée au grand jour. Ceux qui auront bâti une vie chrétienne, un peu comme on bâtit une cabane, eh bien, vont voir leur vie balayée lorsqu'elle passera au critère du jugement de Dieu. Ils seront sauvés, mais comme au travers du feu, nous dit l'apôtre Paul. Leur maison ne va pas résister à l'épreuve du feu. Leur vie, finalement, n'aura rien laissé de solide. Par le jugement, Dieu a envie d'éliminer tout ce qui n'a pas de valeur, tout ce qui n'a pas de consistance. Une maison en chaume n'a pas de consistance, donc elle va être simplement éliminée. Mais le jugement de Dieu sert aussi à récompenser ce qui est vraiment authentique. Quand je dis ça, il faut se rappeler que la récompense du Seigneur est toujours une grâce. Je n'ai aucun mérite à recevoir une récompense du Seigneur. Je reviens à cette notion de crainte. Craindre Dieu, ce n'est pas quelque chose de négatif. Si je crains mon juge, c'est que j'ai conscience du sérieux de l'existence de ma vie. Et j'ai aussi conscience que la vie que j'ai reçue a un très grand prix. Dieu a versé un prix incroyable pour me délivrer de mon ancienne vie et m'amener dans une vie nouvelle. Au verset 18, Pierre écrit « Vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres. Vous avez été rachetés ou délivrés. » La notion de rachat, c'est une notion qui était fréquente dans l'Antiquité. On parlait de rachat quand on affranchissait un esclave. L'esclave était libéré par le dépôt d'une certaine somme d'argent. On déposait cette somme dans un temple, comme si c'était une banque en quelque sorte, et le temple prélevait une commission sur le service exercé, et l'argent qui restait était versé au propriétaire de l'esclave avec la pensée que le dieu ou la déesse de ce temple païen rachetait en quelque sorte l'esclave pour en faire son propre esclave. Donc l'esclave était libre face à son ancien propriétaire, mais on considérait qu'il était devenu la propriété du dieu ou de la déesse. Et que le prix de son rachat, c'était le prix de la rançon. L'apôtre Pierre explique que nous avons été rachetés, que le prix qui a été versé pour ce rachat, c'est un prix qui dépasse, qui défie l'imagination. Ce prix n'a pas été payé avec de l'argent ou de l'or, mais il était payé par le sang de Christ, c'est-à-dire par la vie de Christ. Et de quoi Dieu nous a-t-il rachetés? Pierre nous dit que nous avons été rachetés de la vaine conduite héritée des pères. Les pères, ce sont nos ancêtres. Ce sont les traditions de notre ethnie. Ce sont les coutumes qui marquent l'identité de notre groupe. Ce sont ces choses, ces marqueurs, qui sont tellement importants pour définir qui nous sommes et d'où nous venons. Eh bien, l'apôtre Pierre a un discours qui va à contre-courant de la société de l'époque où l'on vénérait les ancêtres et les pères. Il dit que toutes ces coutumes, toutes ces traditions n'ont pas de poids. Il nous dit que nous ne devons pas allégeance à nos ancêtres, mais à Christ. Et il nous dit encore que Dieu nous a délivrés de cette vie inconsistante qui était celle de nos ancêtres, qui ne connaissaient pas Dieu et qui marchaient pour eux dans le péché. Dieu a été prêt à payer le prix fort pour nous délivrer de cette vie-là. Une vie qui a coûté, enfin, le prix qui a coûté la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est présenté comme un agneau sans défaut, dont le sang est versé pour nous donner la vie. Cet agneau sans défaut, c'est l'agneau de la Pâque, dont j'ai parlé en début de prédication, dont on répandait le sang sur le linteau de la porte pour que l'ange exterminateur passe par-dessus la porte et puis s'en aille ailleurs, laissant la vie sauve. Mais nous sommes délivrés du jugement de Dieu par la mort de Jésus-Christ à la croix. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a sauvés en Jésus-Christ. Il a eu un plan de salut qui n'était pas un plan de dernière minute, mais un plan qu'il a réfléchi même déjà avant la fondation du monde. Ce plan-là, Dieu l'a mis en œuvre en Jésus-Christ. Et je vous assure, mes frères et mes sœurs, vous pouvez faire confiance à Dieu. Ce plan-là, il va l'amener jusqu'à la perfection. Un jour, Jésus va revenir et rétablir toutes choses. Mettez votre confiance en Jésus. Espérez en lui pour votre vie. Votre vie est peut-être compliquée. Vous êtes peut-être découragé. Vous avez peut-être tendance à regarder en arrière. Je vous invite, par les compassions de Jésus-Christ, à regarder en avant, à espérer. Parce que votre vie est entre les bonnes mains de Dieu. Dieu a été capable de délivrer son Fils Jésus des liens de la mort. Il l'a ressuscité d'entre les morts. Il l'a amené à la gloire. De la même manière, Dieu veut nous délivrer des liens de la mort et nous amener dans la gloire. Il saura nous délivrer du pouvoir de la mort et du pouvoir du péché. Il l'a fait. Et si vous êtes en route avec Jésus-Christ, si vous avez donné votre vie à Dieu, vous êtes sur ce chemin-là. Persévérez. Regardez le but. Ayez confiance en Dieu. Il nous donnera le courage qu'il faut. Et il saura nous garder fidèles jusqu'au bout de la course. Amen. Seigneur, merci parce que par la méditation de ce texte ce matin, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas être des chrétiens passifs, mais que nous avons besoin de mobiliser toutes nos ressources intérieures pour tenir ferme. Seigneur, nous voulons marcher dans l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Nous savons que notre vie a du sens avec toi. Nous savons aussi ce qu'il t'en a coûté pour nous amener dans cette vie-là. Aide-nous à tenir ferme. Éloigne de nous tout ce qui pourrait nous nuire dans cette marche avec toi. Aide-nous à rester sobres, Seigneur, à garder les pensées fixées sur toi. Et Père, garde-nous maintenant. Aide-nous à être responsables, à vivre une vie devant toi qui soit une vie responsable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons entendre maintenant le groupe vocal Hope Full. Je les invite à prendre place. Et juste à l'issue du chant qu'ils vont nous interpréter, eh bien, nous allons encore avoir un temps de commémoration du centenaire de l'association Baptiste. Et j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Mais avant que je revienne ici pour la suite, eh bien, après le chant, nous aurons l'occasion de voir une vidéo qui nous introduira à la célébration de ce centenaire de l'association Baptiste.